Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir et une grande joie pour nous, pour Marguerite et moi, d'être parmi vous. Il y a des visages connus et ça nous fait du bien d'être parmi vous. Alors ce matin, j'aimerais aborder un autre sujet. Rachel a parlé du temps de l'Avent. Mon sujet n'a, entre guillemets, rien à voir avec le temps de l'Avent, si ce n'est que j'ai demandé à Christian si vous aviez parlé ici à la Vosges de l'Église persécutée. Toutes les années, à la Prairie à Montbéliard, nous avons un culte lors du dimanche de l'Église persécutée, un culte qui parle de cette Église et nous travaillons avec l'association Porte Ouverte qui, bien sûr, œuvre parmi les Églises persécutées. Devant le fait que Christian m'ait dit non, je lui ai dit est-ce que je peux reprendre le thème de ce culte. Et quelque part, même si c'est les dimanches de l'Avent pour nos frères et sœurs persécutés, ils vivent aussi le temps de l'Avent, comme nous le vivons, probablement pas tout à fait de la même façon. Alors j'aimerais vous entraîner dans un cheminement avec l'Église persécutée. Il y a tout d'abord une vidéo, il y arrive, mais la Christian est prêt à te lever. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous mettre un peu de son, à défaut de mettre de l'avoine.
Elle témoigne aussi que l'hiver de l'Église entraîne un printemps de la foi. De la République islamique en 1979, les chrétiens étaient moins de 200 000, arméniens et assyriens pour la plupart, et environ 10 000 chrétiens d'origine musulmane de langue maternelle perse. Au fil des années, environ la moitié des chrétiens ont émigré, faisant craindre à terme la disparition de l'Église. Mais dans le même temps, les Iraniens ont commencé à s'intéresser à la foi chrétienne, même si officiellement, l'apostasie est toujours punie de mort. Ces 10 dernières années, on estime que c'est par centaines de milliers que des Iraniens curieux ou déçus de l'islam ont fréquenté des groupes de maisons ou des églises, regardé des émissions télé par satellite ou visité des sites internet chrétiens. Dans de nombreuses villes, petites et grandes, l'église grandit. Mais c'est une église clandestine.
Attends, j'ai perdu ma flèche. Mais
quand ma femme est venue au Seigneur, le gouvernement a exercé une forte pression sur nous. Ils ont même fermé l'église et installé un grand panneau déclarant que ce bâtiment n'était plus une église. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés en famille, tous les soirs, pour écouter une radio chrétienne, lire la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ et prier. Et tous les dimanches soirs, à 17h30, nous nous réunissons autour de la parole, pour le culte, et nous récoltons même l'offrande. C'est vraiment sérieux. La présence de Dieu n'est pas liée à des endroits ou à des bâtiments spécifiques. Non, Dieu est présent partout. L'église en Iran est donc clandestine, mais la présence de Dieu y est manifeste. Le christianisme était en voie de disparition en Algérie. Au XXe siècle, on assiste à un réveil, particulièrement en Kabylie. Les chrétiens subissent des pressions, mais leur foi ne faiblit pas.
J'ai dit au Seigneur, j'ai décidé de te suivre jusqu'à la mort. J'ai commencé à témoigner aux personnes que je connaissais. Mais la police est venue et nous ont emmenés de force au commissariat. Ils ont essayé de me mettre la pression et m'ont poussé à renier ma foi et à confesser le nom du prophète de l'islam. Mais je leur ai dit, moi je suis chrétien et je resterai chrétien. La police a dit à la personne qui a déposé plainte qu'elle devait témoigner contre moi, car j'avais insulté le prophète de l'islam.
Farid est aujourd'hui libre, mais sous le coup d'une condamnation, à tout moment, il peut retourner en prison.
J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses, et c'est ta volonté qui va se réaliser dans ma vie. À chaque fois, je me rappelle de cette prière du Seigneur Jésus quand il dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Parfois, je me dis aussi que Dieu a permis que je passe ces moments-là pour que je puisse mûrir spirituellement et que
chrétiens sont partis. Mais on constate que ceux qui restent forment une église plus unie que jamais. Le pasteur B est resté. Il aide les réfugiés.
Cela me place dans une situation dangereuse, faite d'incertitudes et de troubles. Et certaines personnes pourraient croire que je prends parti pour les uns et contre les autres. Ma motivation vient de Matthieu 28, lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller aux extrémités de la terre pour partager l'évangile. J'aurais pu prendre la posture du Lévite dans l'histoire du Samaritain, j'aurais pu choisir d'être un observateur et me contenter de regarder les souffrances et l'agonie des gens, ou alors d'agir. Voici ce que j'aurais. Ce sont des réfugiés qui n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Ils sont dans la détresse. Tout en eux, y compris l'expression sur leur visage, me donne une envie urgente de leur tendre les bras et de les aider. J'avais donc le choix entre prendre la posture du Lévite et me contenter d'observer. C'est vrai, Jésus. Jésus ne s'est pas simplement assis dans les cieux à écouter les chants des anges, mais il est descendu pour agir concrètement. Alors j'ai choisi de faire ce qu'a fait Jésus. C'est principalement Dieu qui vous encourage. Dieu qui contrôle tout ce qui se passe dans votre cœur et votre esprit. Avant la guerre, notre principal sujet de prière était « Dieu, ouvre tes portes s'il te plaît, nous voulons la paix, nous voulons le printemps. » Ce printemps qui était en route et dont tout le monde parlait, maintenant, il est là. C'est en fait la façon dont Dieu nous dit « Voici l'occasion pour vous de vous engager et de servir. »
Voilà, cette vidéo est déjà en elle-même très parlante. Nous pensons souvent à cette église persécutée, dans nos cultes le matin peut-être, mais quand on voit des images et qu'on entend des témoignages, on est encore plus interpellé. Alors, qui d'entre nous n'a jamais aspiré à un réveil de l'église ? Dans son pays, dans sa région, dans notre pays. Alors que l'Église semble stagner ou se limiter à une croissance timide en Occident, dans nos pays, on arrive à l'ère post-chrétienne, d'aucuns nous disent. Nous sommes témoins d'une expansion de la foi dans plusieurs régions du globe, et même dans les pays où l'opposition au christianisme est des plus féroces. Un phénomène qui nous semble paradoxal à première vue, mais Jésus ne nous a-t-il pas averti en Jean 12, verset 24 « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » L'apôtre Paul exprime cette vérité dans le contexte de son ministère. Alors je vous invite à lire dans Philippiens 1, les versets 12 à 20. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Alors, ça va plus vite pour le revenir en arrière, parce que j'ai pas de Bible là sur moi. Okay. Voilà. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. L'hiver de l'Église. Philippiens 1, verset 12. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. L'apôtre Paul est en captivité. Au verset 30, un peu plus loin, il fait allusion aux persécutions endurées à Philippe dans la défense de son apostolat. En 2 Corinthiens 11, verset 23-27, il énumère toutes les tribulations subies. Nous avons parfois une certaine réticence à aborder la question de l'Église persécutée et même celle de la souffrance. De plus, si vous écoutez et si vous vous rappelez ce que disent les médias autour de nous, on n'en parle pas souvent. Et nous sommes bien souvent inconscients de leur situation. Vivre sa foi dans un milieu, dans un contexte hostile. Dans plusieurs régions du globe, et particulièrement dans les pays islamistes, où les fondamentalistes veulent imposer la charia, la violence envers les chrétiens atteint des proportions qui sont sans commune mesure avec ce que nous pouvons vivre, nous, en Occident. Même si nous, en Occident, et dans notre pays de France, sous des prétextes de laïcité, j'ai entendu cette semaine quelqu'un à la radio qui disait que la laïcité était devenue une religion supplémentaire, même si nous, quelquefois, nous avons l'impression qu'on nous empêche sérieusement de partager. Mais la persécution ne se produit pas par hasard. Elle est préméditée et organisée dans le but d'éliminer la présence chrétienne et de ce fait de faire taire le témoignage chrétien. Quelques exemples de persécution.
Désarroi des chrétiens du Moyen-Orient face au fondamentalisme islamique. Terreur inspirée par les djihadistes en Syrie qui pillent, torturent, violent et tuent. Horreur des massacres de masse répétés au Nigeria par les islamistes de Boko Haram. Pression inimaginable en Corée du Nord, où être chrétien est un crime passible de la mort. Atmosphère de terreur en Somalie, où on décapite publiquement les chrétiens. Attaque meurtrière en Irak, où l'on purge le pays de toute présence chrétienne.
Porte ouverte publie chaque année, il la remet à jour chaque année, une carte de l'index mondial de la persécution. Chaque fois que je regarde cette carte, je suis quand même interpellé par tous ces pays. On est quand même bien dans notre pays de France. Pensons à cela quand nous prions pour l'Église persécutée, mais pensons aussi à remercier Dieu pour les privilèges que nous avons dans notre pays de France, même si de temps en temps on trouve que... Il y a de nombreux pays tout en rouge, hein, le pays tout en noir, là au bout, là. C'est la Corée du Nord. Hein. Et ensuite, vous voyez un peu tous ces pays d'Orient, d'Extrême-Orient, et puis c'est parti de l'Afrique également, où nous savons, vous et moi, que l'islam est en augmentation. une croissance générale et globale de la persécution des chrétiens à travers le monde.
Une Afrique subsaharienne qui devient un champ de bataille pour l'Église. Une nette augmentation de la persécution dans les États dits défaillants. Un hiver chrétien qui devient glacial et qui perdure dans certains pays.
Un froid qui perdure. La violence physique est destructrice, mais le fait de vivre constamment dans la peur et de subir une pression quotidienne peut l'être encore plus. Ceci a un impact des plus néfastes sur les minorités sans attirer l'attention des médias, puisqu'on les empêche de s'exprimer, on ne les entend pas et les médias ne s'y intéressent pas. Mettons-nous à leur place. Vous êtes un chrétien au Moyen-Orient, dans un pays hostile à l'Évangile. Ce que vous vivez au quotidien.
L'atmosphère est oppressive. Vous subissez l'appel du muezzin 5 fois par jour. Vous sentez une pression sociale. Vous n'êtes pas des nôtres, on vous tolère. Vos droits sont limités. Les femmes en particulier risquent d'être agressées. Vos enfants sont obligés d'apprendre le Coran à l'école. Vous êtes discriminés au jour le jour, particulièrement au travail. C'est l'anarchie. Vous êtes vulnérable, une proie facile. Vous n'avez pratiquement aucun droit.
Mettons-nous à leur place. Nous sommes nés dans une famille musulmane et nous nous sommes convertis.
Voici ce que vous risquez. Votre propre famille, vos proches, sont les premiers à vous poursuivre. Vous perdez votre emploi, votre famille, vos amis, et peut-être votre conjoint. Les églises qui ont pignon sur rue vous rejettent par crainte des conséquences. Vous êtes obligés de fuir pour votre sécurité. Votre vie est en danger. Votre entourage est contre vous. Pourquoi avez-vous quitté l'islam ?
Mais le plus grave serait de perdre tout espoir. Un éveil spirituel. Philippiens 1, verset 14. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer l'Évangile, pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Une prise de conscience. Dans les situations extrêmes, quand on se retrouve le dos au mur, il n'y a que 2 possibilités. Céder au désespoir en maudissant Dieu, et nous lisons dans Job 2, verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Ou chercher refuge en lui, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1, verset 7. Témoignage d'un chrétien égyptien au lendemain de la Révolution.
La question la plus importante n'est pas « Que va-t-il se passer demain ?» mais « Que pouvons-nous faire aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'Église ?» Je crois que c'est une opportunité pour chercher la repentance et le salut de notre nation. Nous, chrétiens, devons aujourd'hui refléter l'amour et le pardon de Jésus. Nous sommes les seuls à porter la lumière de Jésus et nous ne pouvons pas le cacher, tout comme on ne peut pas garder le sel dans la salière. Il doit se dissoudre dans tout le plat pour donner sa saveur. Nous avons connu l'injustice, la discrimination et les agressions physiques depuis des décennies. Mais ce n'est plus le moment pour notre Église de se plaindre de ses droits bafoués, de ses bâtiments détruits et de ses expériences douloureuses. Non, c'est le temps pour proclamer Jésus.
En Syrie, plusieurs assemblées, conscientes de la misère dans laquelle a sombré leur pays, se sont mobilisées. Pour agir, l'Église change et se transforme. Dieu fait une œuvre remarquable au sein d'un conflit effroyable. C'est comme si nous vivions le livre des Actes, a dit un pasteur de Tartus, à l'ouest du pays. de tribulation en opportunité. Nous serions tentés de croire que l'Église s'affermit et connaît la croissance lorsque nous sommes dans un contexte de prospérité. Mais on constate plutôt le contraire. La persécution sépare la balle du grain, ceux qui appartiennent à Jésus de ceux qui prétendent seulement lui appartenir. Bien souvent, la persécution est l'étincelle qui enflamme le processus de vie de l'Église. Parole d'un pasteur syrien d'Alep.
Je crois et je constate que Dieu est à l'œuvre dans le pays. Il nous a fait sortir de nos quatre murs. Dans le passé, nous n'avions que nos cultes, nos chorales, nos activités sociales. Maintenant, je vois l'Église aller vers ceux de l'extérieur. Nous sortons enfin de notre zone de confort.
Alors il y a un printemps de la foi. Philippiens 1, verset 20. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté. Une foi dangereuse. Nous avons souvent tendance à assimiler la victoire au bien-être matériel. Cependant, la Bible nous montre que le printemps de la foi ne signifie pas toujours que la souffrance prend fin. L'apôtre Paul reste en détention malgré tout, et même l'hostilité envers nos frères au Moyen-Orient perdure. Notre but est de glorifier Christ en toutes circonstances et quelles que puissent en être les conséquences. Un témoignage d'un jeune couple chrétien d'Asie du Sud-Est qui avait créé un jardin d'enfants dans un quartier des plus misérables de la capitale du pays. Après beaucoup d'efforts de pourparlers et de transactions, ils furent en mesure de mettre en place une structure pouvant accueillir une centaine d'enfants en dispensant un enseignement de base et en proposant diverses activités. Ils réussirent à apporter à ces enfants une éducation qu'ils ne pouvaient recevoir autrement et surtout avec un repas quotidien. Cependant, le fait qu'ils soient chrétiens a créé des problèmes. Et bien entendu, leurs activités ne plaisaient pas à tout le monde. Bien entendu, il y a eu des menaces de mort. Alors à la question qu'on leur a posée de savoir si cet engagement n'était pas risqué pour lui et sa femme, le jeune homme nous fixa un moment du regard et répondit.
Bien sûr que c'est dangereux, nous en sommes conscients. Mais n'aurait-ce pas été encore beaucoup plus dangereux de ne pas répondre à l'appel de Dieu ?
Une foi fondée sur la souveraineté de Dieu. Il nous est souvent difficile, voire même incompréhensible, de comprendre, d'accepter pourquoi Dieu permet certaines situations. Et notre foi est mise à l'épreuve, et elle est mise à l'épreuve lorsque nous envisageons la situation désespérée de l'Église persécutée. Comment peut-on considérer la souveraineté de Christ dans des situations extrêmes? Des témoignages de Corée du Nord. Déroulement d'une réunion de prière en Corée du Nord.
Nous recouvrons les portraits de nos leaders accrochés au mur, et puis nous nous agenouillons en cercle sur le sol. Nous prions pour recevoir de la force et de l'endurance. Nous prions pour que Dieu sauve notre pays. Puis nous supplions Dieu, pardonne-nous de nous être inclinés devant des idoles. Nous te prions, Père, de restaurer l'Église de Corée du Nord.
Un autre témoignage d'un homme arrêté suite à la découverte par la police d'une Bible chez lui. Des prisonniers qui partageaient sa cellule nous témoignent qu'il a été terriblement battu au point d'être défiguré. Il savait qu'il allait mourir. Voici ce que nous a dit un de ses proches. Je connais cet homme depuis bien longtemps. Quand il a accepté Jésus dans sa vie, il a pris clairement la décision qu'un jour il mourrait pour lui. Chaque chrétien dans mon pays a l'esprit du martyr en lui. Si vous perdez cet état d'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, vous ne pourrez pas porter le fardeau de disciple de Jésus. Mon ami savait qu'il pouvait se faire arrêter un jour, mais que ce jour venu, Il fallait qu'il soit inébranlable dans sa foi et sa loyauté à Jésus. Je suis convaincu qu'il peut supporter la souffrance parce qu'il connaît la joie qui lui est réservée. Notre foi peut être dangereuse et même nous mettre en danger. Mais avons-nous toujours le bon objectif dans notre vie chrétienne? La souffrance des chrétiens nord-coréens révèle la suprématie de Christ, car ils fixent leur regard sur leur récompense, à savoir Jésus lui-même. Alors en conclusion, Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul a fait l'expérience de la souffrance subie à cause de la bonne nouvelle de Jésus. Mais Paul savait aussi que la vie chrétienne est un combat et que l'unité des frères et sœurs dans la prière était indispensable pour surmonter l'épreuve, quelle que soit l'épreuve. Parole d'un chrétien palestinien de Gaza.
Si nous laissons les circonstances affecter notre identité chrétienne, nous serons des victimes au sens propre, car nous aurons laissé Satan nous influencer au lieu de Christ. Il y a des chrétiens de par le monde qui, par compassion, viennent au secours de ceux qui font partie de la famille de Dieu. C'est une chose formidable, car cela exprime la communion fraternelle. Mais je vous en prie, ne privez pas du courage que Dieu nous donne. Nous ne voulons pas de pitié, mais restez à nos côtés pour que nous puissions grandir ensemble, en force et en courage.
Nous faisons partie du même corps que les chrétiens persécutés. Et nous avons une responsabilité envers ceux de notre famille qui luttent. Cette responsabilité est aussi un privilège. Le printemps de la foi, nous y aspirons tous. Et c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Il nous invite tous à y travailler pour favoriser sa venue. Il nous invite à y travailler dans notre pays, là où Dieu nous place. Alors, à la Vosge, il faut, je pense, quelquefois du courage, de la persévérance, de la bonne volonté. Figurez-vous qu'à Montbéliard aussi, et à Pontarlier aussi, et dans de nombreux endroits aussi. Nous avons le privilège de pouvoir encore annoncer aujourd'hui librement l'Évangile. Nous avons le privilège de pouvoir nous rencontrer ouvertement. Ici, vous avez pignon sur rue, comme on dit. Nous aussi, à Montbéliard, nous avons pignon sur rue. Dans beaucoup d'autres endroits, nous avons pignon sur rue pour annoncer l'Évangile. Dans d'autres pays, comme ceux que nous avons évoqués, ils se cachent, ils luttent, ils sont torturés, battus. Ils vont peut-être jusqu'à la mort, mais ils persévèrent. Et le royaume de Dieu fait des progrès dans ces pays-là. Alors, je ne souhaite pas pour nous la persécution. Je pense que personne ne la souhaite. Mais nous sommes invités à penser à ceux qui la vivent. Nous sommes aussi invités, nous aussi, là où Dieu nous place, à dire et à oser. Lors de Pâques 99, alors ça remonte loin, hein, déjà. Ou c'est moi qui vieillis, je ne sais pas. En tout cas, Daniel Müller a conclu ou a parlé dans un de ses messages et il a utilisé le verbe « osons ». Oser, osons. Ça m'avait interpellé à l'époque et ça a interpellé un des membres de notre Église. Et après cette rencontre, il a dit « ben, eh bien voilà, moi j'ai envie de créer un groupe d'évangélisation. » Et un groupe s'est formé avec les moyens qu'il avait pour commencer à annoncer l'Évangile et à organiser des rencontres. Ça n'a pas été si facile que ça. Il y a eu aussi quelquefois des critiques à ce sujet. Mais en tout cas, les choses ont avancé et Dieu a donné du fruit. Il y a eu la création d'un foyer à Saint-Vallon à la fin des années 60, j'en avais entendu parler. J'en suis un des fruits. Une église s'est créée, le quartier aussi a considérablement changé et l'église n'a pas pu continuer faute de plus jeunes, faute peut-être d'une vision. Et ce quartier est maintenant à 95% musulman. Et suite à ce qui s'y passait, et parce que le poste était là, la maison était là, d'aucuns se sont posé la question, mais j'étais de ceux-là, on vend tout, et puis on donne l'argent pour faire autre chose. Une maison à deux niveaux, avec une grande salle en bas, des pièces, il y avait de quoi bâtir une autre maison sur le terrain. Il y a eu des moments de prière, des moments d'échange. Et la décision a été prise de dire, on recherche encore quelqu'un pour travailler dans ce quartier. Les prières sont montées vers Dieu. Il a répondu et Olivier Pfingstag et son épouse se sont sentis appelés à venir travailler dans ce quartier musulman pour annoncer l'évangile et vivre l'évangile. Je dois dire que nous avons été scotchés par Dieu, mais il sait nous scotcher hein, des fois. Hein. Parce qu'ils sont arrivés là-bas, sur place, ils ont pris contact avec les autorités locales, ils ont pris contact avec les travailleurs sociaux. Betoncourt, une ville de 4000 habitants, est une des villes de France où il y a le plus d'animateurs socioculturels. Ils sont 22. Et l'ensemble de ces animateurs a dit, mais faites, venez et faites.
Et il y en a un qui était à Saint-Vallon quand il était jeune et il s'en est souvenu.
Il se souvenait de ce qu'il a entendu. Mmh. Et Olivier, aidé par des membres de l'Assemblée, aidé aussi par JPC, parce qu'il est employé à mi-temps par JPC, ils ont commencé un travail là au milieu. Ils font ce qui s'appelle, je trouve plus le mot,
quartier libre,
un dimanche par mois, auquel est invité les enfants. Ça se passe sur un terrain de sport communal et il y a des activités pour les enfants. Alors l'évangile est annoncé de façon, comment vous dire, ça, light, mais il est vécu. Et puis nous pouvons y penser aujourd'hui, c'est un dimanche particulier parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Noël de quartier libre. Alors il y a eu deux chapiteaux de montée sur le terrain et les enfants sont invités cet après-midi à partir de 14h pour un spectacle. Alors c'est la famille Prigent qui vient, j'ai oublié son prénom.
David
Prigent et son épouse qui vient d'animer la partie musicale.
Et Bettina.
David Prigent a grandi dans ce quartier. Et donc, au mois d'août, quand il y avait le camp, proclame là-bas, les jeunes sont tous venus parce qu'ils connaissaient David Prigent. Il a vécu pas loin de 20 ans dans ce quartier. Alors cet après-midi, il y a la fête de Noël. Voilà. C'est des essais timides. C'est quelquefois dur, laborieux. Mais nous sommes invités à persévérer et à continuer à annoncer Jésus de la façon dont le Saint-Esprit nous inspire. Et puis si même quelquefois on a du mal à voir des choses, dans le cadre de projet à Pontarlier, nous avons rencontré les gens de l'église de Pulversheim qui ont commencé un café partage. Et pendant 2 ans, personne n'est venu. Mais ils ont persévéré. Et puis maintenant, c'est un succès, c'est une réussite. Alors, ça nous incite, nous, avec notre petite foi, à continuer et à persévérer dans l'annonce de l'Évangile. Que le Seigneur nous renouvelle par son esprit pour cela. Vous ici, nous là-bas, d'autres à Pontarlier et d'autres ailleurs. et son royaume progressera. Amen.